C'est l'heure de votre nouvelle émission de La Bougeotte, 48e édition, 48e Bougeotte, 48e aventure avec Christian Cayol. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour tout le monde.
Alors ce mois-ci, tu nous amènes où ?
Ah, alors ce mois-ci, le titre de l'émission, on en avait parlé la dernière fois, c'est, je l'avais annoncé, Tais-toi et Vonage, donc je vous amène l'Avonage. Voilà, alors l'Avonage, il va falloir expliquer ce que c'est et où c'est.
Voilà, parce que c'est quoi l'Avonage ?
Ah ben là, voilà, c'est une petite région. C'est une plaine qui est entre Nîmes et Sommières, c'est pas bien loin, hein, c'est la région, et qui est peuplée depuis le néolithique, entourée de collines, siège d'oppidas, celtes, et qui ont laissé de nombreuses traces archéologiques. Alors, cette région, elle est à rapprocher de la culture cévenole par son passé à forte résistance protestante, mais aussi à rapprocher de la Camargue par ses traditions taurines, bien présentes en particulier à l'occasion de fêtes votives. Et donc voilà, ok, j'espère que maintenant vous vous situez, on est entre Nîmes et Camargue.
Une région de soleil quoi, une fois de
plus.
Oui,
bien sûr, c'est une région de soleil, hélas, le titre, je vais l'expliquer maintenant, hein. Ça n'a pas été du soleil. Hein. Imaginez un épisode cévenol au cours d'un week-end en principe consacré à une importante fête, une randonnée VTT à laquelle il devait y avoir de très nombreux participants, qui faisait le déplacement depuis parfois très loin. Et puis ça s'est pas très bien passé.
Comment ça, le mauvais
temps ? Il a plu, j'en ai rarement vu tomber autant. Une telle quantité d'eau que je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce vilain jeu de mots. Tais-toi et vonage, tout le monde comprend. Hein. Alors, il a plu surtout la veille, la nuit, la veille de la rando. Le jour de la rando, ma foi, pas tant que ça. Et si vous allez voir les images de ma vidéo, de cette émission, les images de tout ça, vous verrez que ben à vélo on circule parce que c'est une terre avec beaucoup de cailloux, donc ben le lendemain il y avait des flaques bien sûr, mais on a roulé. Par contre ben il n'y a pas eu le monde escompté, alors que c'était en principe un rassemblement national d'un niveau international même, et vous verrez si vous voyez les images, voilà, alors qu'il faut appuyer sur les pédales et que ça roule.
Et d'ailleurs, tu en profites pour rappeler le site où on peut voir ces images, où il faut...
Alors, bien sûr, le site, allez voir les images qui correspondent à ce dont je vais vous expliquer, hein, sur Radio Galaxy, le site Radio Galaxy 31, et puis sur mon site perso, Rando VTT Vidéo, que maintenant, vous avez l'habitude, hein, ouais, tous de vous bousculer
bien sûr.
Google pour chercher Rando VTT Vidéo.
Voilà, et le titre, c'est « Tais-toi et Vonage ».
Voilà, c'est ça le titre. Alors... Commençons donc par la Camargue. Alors, par quoi commencer, hein ? Arles et sa riche histoire, ou bien Aigues-Mortes et sa citadelle, le Sainte-Marie de la Mer avec son pèlerinage gitan, le delta du Rhône, les marais, Van Gogh et ses peintures, les taureaux sauvages, les chevaux, j'hésite. Hein, pourquoi pas à Nîmes ? Lorsqu'on arrive à Nîmes, on est automatiquement dirigé vers les arènes. Lui tournant le dos, pourquoi une statue d'un matador français aux arènes de Nîmes, hein ?
Tu vas nous le dire.
Ben oui, voilà, je vais vous le dire. Vous savez, la Bougeotte, c'est parler du tourisme et d'une façon hors des sentiers battus. Alors là, je me suis intéressé à cette statue de matador. Mettons bien les choses au point. Hein. C'est pas un plébiscite pour la tauromachie. Seule l'histoire dramatique d'un homme passionné m'intéresse. C'est son histoire. Alors... Voilà, je vous raconte. Christophe Moncouquiol, dit El Nimeno II, né en 1954, va devenir l'un des plus grands toreros de l'histoire et fera taire les sceptiques, les critiques espagnols. Il va combattre 800 taureaux en 18 ans de carrière. Le 10 septembre 1989, aux arènes de Arles, un taureau l'a propulsé en l'air. Sa chute va lui briser gravement les cervicales. Il est alors tétraplégique. Après une longue lutte, il récupérera l'usage de ses jambes et du bras droit, mais son bras gauche, celui qui trace les naturels, ce mouvement de cape là que font les toréadors, reste paralysé. C'est fini. Il sait qu'il ne pourra plus jamais se planter face au taureau, au centre de l'arène, les pieds dans le sable. Il devient malade de sa passion, qui n'est plus pour lui que souffrance. Il se suicide, à 37 ans, en 1991. Il reste cependant aujourd'hui encore la principale figure de la tauromachie française. Fin d'une histoire triste, mais quand même hors du commun. Alors, je disais en commençant cette émission, ici les traditions taurines sont fortes. Cependant, personnellement, je préfère de loin les courses de taureaux d'un autre genre, la course camarguaise. Je te vois sourire, ça te plaît?
Oui, j'attends de voir.
Alors, c'est quand même un sport sans mise à mort, sans blessure du taureau. Le raseteur doit avoir de bonnes jambes, doit attraper dans l'ordre les attributs qui sont fixés aux cornes du taureau. La cocarde, les glands et les ficelles. Le taureau poursuit le raseteur en général, qui n'a pas d'autre choix que de sauter les barrières. Parfois, le taureau lui aussi saute. Ça fait vibrer le public. C'est un magnifique spectacle. Moi aussi, ça me fait sourire rien que d'y penser.
Ouais, c'est autre chose. Du moment qu'il n'y a pas la mise à mort, ça change tout.
Exactement. Ouais. L'emblème de la Camargue, par lequel j'aurais pu aussi commencer cette émission, ce sont les Camarguais, les chevaux de Camargue. Alors, une race de chevaux qui s'est incidemment constituée au cours des siècles, autour de caractères bien marqués en rapport avec le sol, le climat et la pâture. L'élevage extensif en semi-liberté confronte les chevaux aux excès des conditions climatiques et façonne leur rusticité et leur endurance. Les poulains à la naissance sont de couleur sombre, noir, baie ou gris, ou rouen, et ne prennent leur grobe gris clair, parce qu'on dit qu'ils sont blancs, non, ils ne sont jamais blancs, on dit gris clair, que plus tard, parfois vers 5 ou 6 ans. Ils seront identifiés pour l'élevage, par une marque au fer chaud, sur la cuisse ou sur l'encolure, pour les mâles, par une lettre, c'est l'année de naissance, et aussi par un numéro. Le cheval de Camargue est docile, maniable, il est robuste, il est courageux, il est rustique, il devient le précieux partenaire des gardiens pour la conduite des troupeaux. Il est l'emblème et des fêtes traditionnelles comme la bravado. C'est un jeu dans lequel les gardiens conduisent les taureaux en les encadrant, alors que la population essaie de les en empêcher. Ça se fait au cours des fêtes votives. Mais aussi la ferrade. Le jeu, c'est de séparer les veaux du troupeau afin de les marquer. Ou encore, la rousse à taillot. Excusez-moi si la prononciation n'est pas bonne. Pendant lesquelles les gardiens font traverser au trot un village à un troupeau de juments en liberté, accompagnés de leurs poulains. Tout ça, c'est beau à voir quand on y est. Hein. Et Nadine va réaliser un magnifique pastel d'une abrivade, justement, qui va illustrer ma vidéo. Allez voir ma vidéo. Et à la fin, comme d'habitude, vous avez... Cette magnifique passerelle de Nadine sur une abrivado, justement. Restons en Camargue, mais changeons d'époque. Voici au plein centre de la Camargue un complexe romain. La voie Domitia, qui va de Rome à Cadix, conduisait à Ambrosome, un ancien oppidum gaulois de l'âge du fer, après avoir traversé le Vidourle grâce à un pont, le pont d'Ambroix. Ce site avait été occupé par les Celtes à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ils avaient fondé un oppidum, 5 hectares entourés d'un épais rempart que l'on voit encore parfaitement. Les Romains, eux, ils vont s'y installer vers 120 ans avant notre ère. Et ils vont aménager la voie Domitia. À l'origine, à la sortie du pont de bois se trouvait un relais routier, véritable aire de service pour les voyageurs. Il sera remplacé à la fin du 1er siècle par un gigantesque ouvrage de 11 arches, 150 mètres de long, pour permettre de traverser même en période de crue. Il ne reste plus qu'une seule arche pour témoigner de son ampleur passée. Cet ouvrage enjambe un petit fleuve, ou enjambé, puisqu'il ne reste plus qu'une arche. Un petit fleuve presque à sec en été, à cheval entre le Gard et l'Hérault, réputé pour la soudaineté et la violence de ses crues. Un véritable pur sang sévenol qui porte le nom de le Vidourle. Le risque d'inondation est important sur toute sa longueur. Ça va concerner 89 communes, 16 campings et entre 130 000 et 200 000 personnes sur 40 000 hectares. 3 barrages ont été construits pour écréter les crues. Malgré cela, en 2002, toute la région fut submergée. Lorsque le débit du fleuve atteignit 2650 mètres cubes seconde. Qu'est-ce que ça fait 2650 mètres cubes seconde ?
On n'imagine pas.
On ne s'imagine pas. Eh bien, on a un point de repère. La crue de la Seine en 1910, n'avait fait que 2400 mètres cubes seconde. On est 250 mètres cubes seconde de plus que la Seine en 1910. Là maintenant, ça y est. Hein,
on commence à imaginer.
On commence à imaginer. Alors ça, ces épisodes de Fédémenol, on appelle ça les vidourlades là-bas, quand le vidourle est en crue. Hein. Moi j'en ai vu quelques fois, je suis allé rouler par là, du côté de Sommières. C'est pas beau, hein. Oui. Revenons à Ambrosome. la ville haute sera abandonnée vers la fin du 1er siècle. Et puis Ambrosome, il va tomber dans l'oubli à partir du 4e siècle. Alors, un petit conseil, maintenant qu'on en a parlé. Quand vous passez sur l'autoroute, maintenant que vous connaissez l'histoire, arrêtez-vous. Le cirque archéologique est gratuit et ouvert toute l'année.
À quel endroit l'autoroute tu peux resituer ou...
Ambrosome, quand on arrive à Nîmes.
D'accord.
Quand vous êtes sur l'autoroute, vous franchissez le Vidourle.
Oui.
Il est marqué sur le bord, le Vidourle. Donc vous avez la sortie, pas bien loin.
Ok, chef.
Je vais maintenant vous raconter une autre histoire d'eau. À Nîmes, cette fois. Au fond d'un joli parc à la française, au centre de la ville, jaillit une source vénérée depuis toujours, bien avant l'arrivée des Romains. Des travaux d'embellissement du XVIIIe siècle ont respecté le plan d'un ancien sanctuaire avec deux escaliers qui descendent à la source. Une fois de plus, l'exploration est fascinante. D'où vient cette eau? Par quel cheminement? On a parlé plusieurs fois des sources, on a parlé de Fontaine Vautrugluse, on a parlé de la source à Touvre, du côté d'Angoulême. C'est un sujet que j'aime bien.
Oui, les sources, mais tu es un ancien spéléologue, il me semble, ça ne m'étonne pas non
ancien,
plus.
Ancien, pourquoi ancien?
Ça me fait encore.
Un rêve.
Ah, voilà.
Première exploration, 1905. Une année particulièrement sèche. Mais l'équipe ne va pas s'engager par la vasque. Elle va pénétrer par un aven qui jouxte la source. Elle découvre alors une salle demi-noyée qui semble être prolongée par une grande galerie. On n'en sait pas plus. Des années 60 à 90, plusieurs tentatives, par pompage ou par plongée ou par navigation, vont permettre d'explorer et de topographier des centaines de mètres de galerie. En 1991, le réseau total développe 2900 mètres. Bon, c'est déjà pas trop mal. La découverte de fragments de poterie gallo-romaine et médiévale dans un puits naturel sur le plateau, qui est maintenant bouché, sont découverts. Et à l'époque, c'était un accès sur le réseau. Les habitants passaient par ce puits pour puiser de l'eau, tout simplement. Ce lieu a été baptisé le gouffre des poubelles. En 1998, il sera dégagé de l'ensemble des immondices. Un gros travail. Et on a maintenant accès au réseau noyé. Un nouveau pompage plongé sera suivi et permettra la découverte de 1000 mètres de galeries qui vont se terminer sur une nouvelle verticale, remplie d'eau cette fois, de 40 mètres de profondeur. En 2002, ce point bas sera passé, plongé et dépassé de 200 mètres, sans toutefois trouver la branche remontante. Vous savez qu'un siphon, on s'enfonce, on descend dans l'eau, mais ensuite, il faut remonter. Hein ? Ça, on ne débouche pas après.
Et oui, il paraît.
Il paraît qu'il faut remonter.
Il paraît.
Alors donc, voilà, la fin provisoire de l'exploration, puisque le point bas a été atteint mais pas franchi. Au total, maintenant, le réseau développe 5 km et prend une bonne place dans la liste des réseaux noyés de France.
D'accord.
Cette source avait pris le nom de Nemosus, nom de l'antique Nîmes, capitale d'une tribu celte au 3e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, cette résurgence suffisait amplement aux besoins de toute la population. Mais à l'époque romaine, la ville devient une des plus importantes de Gaule. Elle compte par exemple 20 000 habitants et en comparaison, le Gnounoum, Lyon, n'en comptait que 5 000, 4 fois plus d'habitants à Nîmes. C'était une grosse capitale. Dans un premier temps, les Romains vont aménager la ville à partir de la fontaine résurgence en faisant des bassins de décantation pour filtrer l'eau, tout un réseau de canalisation, des tuyaux de plomb pour distribuer l'eau dans toute la ville. Et un réseau d'évacuation des eaux usées pour compléter l'urbanisme. Malgré cela, le débit de l'eau est insuffisant. Surtout, les besoins grandissants en fonction de nombreux thermes et des fontaines. Dans les années 40 et 60 après Jésus-Christ, un programme de travaux est élaboré pour chercher de l'eau. Et ils vont s'intéresser à une source près du Zès, distante de 50 km. Pour ça, les Romains vont construire plusieurs aqueducs, dont le fameux pont du Gard. Mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. La majeure partie du trajet se fait en réseau souterrain. Et il va se terminer par le Castellum Divisorium, ou Castellum Aquae. C'est un ouvrage rarissime, c'est-à-dire c'est le château d'eau qui est dans le Nîmes et qui va distribuer l'eau à toute la ville, à toutes les fontaines. C'est le seul monument dans ce genre en France. Il n'en existe pas deux.
Et on peut le visiter ?
Ah ben, bien sûr, il est en pleine ville. Voilà, vous garez la voiture, vous l'avez au bord de la rue, près du trottoir, devant le trottoir. C'est l'arrivée de l'aqueduc qui arrive donc du Zès, 50 km. Ça débouche ça tombe dans une espèce de cercle de 6 mètres de diamètre et de profondeur, 1,80 m de profondeur, où on voit les arrivées d'eau et on voit tous les départs qui étaient, c'était organisé parce qu'ils avaient des vannes pour diriger l'eau. Ça distribuait l'eau vers les différentes fontaines et tous les quartiers de la ville en apportant beaucoup de confort et de prestige. Le trop-plein d'eau partait dans les égouts pour constituer l'assainissement de la ville. Alors, je ne sais pas si on se rend compte du savoir-faire romain, la différence avec les populations colonisées à l'époque qui, elles, vivaient dans des huttes. En général, les villes se sont développées au bord des cours d'eau, l'eau étant vitale. Et les Romains, quant à eux, ils bâtissaient les villes là où ils le jugeaient bon. L'eau, ce n'était pas un problème pour eux, puisqu'ils maîtrisaient toutes les techniques pour la faire venir, notamment la technique du nivellement, grâce à l'utilisation d'engins, le dioptre et le corbate. C'est une grande règle de 6 mètres de long, avec une rainure sur le dessus, où on pouvait mettre de l'eau et l'orienter, et on avait ainsi la pente. L'eau partait d'un côté ou de l'autre, avec des fils à plomb aussi pour avoir les... Voilà, donc ça c'était le corbate. Mais ça a servi pour faire le nivellement à beaucoup d'endroits, sauf que ça n'a pas pu servir pour l'aqueduc de Nîmes. La raison est que 50 km d'aqueduc, pour une pente moyenne de 0,25 m au kilomètre, c'est-à-dire 0,025% de pente. À 10 mètres, vous avez 2 mm sur l'aqueduc. Hein, les pentes vont du mètre au centimètre. Elles étaient trop faibles pour l'utilisation du corbate ou du dioptre. Les nombreuses difficultés du terrain ont sans doute contraint les Romains à abandonner donc cette utilisation du corbate au profit peut-être d'un niveau à eau statique, c'est-à-dire, ça on peut très bien le faire dans une pièce, un tuyau rempli d'eau, on a les deux bouts du tuyau à même hauteur. Dans une pièce, on peut marquer les niveaux. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils avaient comme matériel pour faire ça à l'époque? Là, mystère. Hein, moi, je suis incompétent. S'il y en a qui sont plus compétents...
Il faut faire un retour dans le temps.
Il faut faire un retour. Hein. Voilà. Un autre endroit, pas bien loin, pour alimenter Arles, les Romains sont allés chercher l'eau dans les Alpilles. 48 km. Dénivelé, 38 mètres. Je vous laisse calculer la pente. On est à 0,08%. Rien du tout. Alors, en plus de cette technique du nivellement, que les Romains possédaient parfaitement, ils connaissaient aussi toutes les techniques de construction des aqueducs et aussi celle du siphon inversé qui permettait de faire franchir l'eau à une vallée. Voilà. On arrive par un plateau, il faut faire passer l'eau, on ne fait pas un aqueduc, on fait un siphon renversé et on a l'eau de l'autre côté. Bon, c'est tout simple.
Oui, c'est très très, très simple. Hein, on est d'accord.
L'importance de l'eau. Il faut faire couler l'eau à grand flot, signe de puissance et de confort pour les Romains. Voilà. Hein. Nîmes, à l'époque, c'était 35 000 mètres cubes d'eau dépensée par jour. Il fallait en foutre plein la vue. Quoi, hein. Bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas inventé le robinet.
Oui,
bon, donc l'eau coulait toute la journée.
Ouais, voilà. Bon, ça...
Alors, ouais. Donc,
pourquoi pas, c'est des sources, allez, à la limite, allez.
Serions-nous capables de faire pareil maintenant, de nos jours? Je ne sais pas.
Mais il faut le souhaiter, on va sur la Lune, il faut le souhaiter.
Que dire d'autre? Les sujets ne manquent pas. En voici un autre, récurrent certes, mais qui, je l'espère, vous intéressera. Et surtout, je vais vous proposer des petites découvertes lors d'une petite randonnée. Alors, on parle souvent, moi tout au moins, des abris de berger en pierre sèche, en forme de bonnet plus ou moins pointu, que l'on rencontre dans les vignes pour abriter les outils, les récoltes, se protéger du mauvais temps. Ici, à Nîmes, on les nomme les capitelles. Alors, je vais vous parler en particulier des capitelles de Blauzac. Autour de ce village, une association en a restauré plusieurs, mettant en valeur le secteur. Il faut faire une petite randonnée balisée, dans le bois aux 50 capitelles et aux nombreux enclos. Vous passerez à côté de celle en pain de sucre, celle en ogive, qui est datée de 1794. De la pyramidale curviligne, dont les parements extérieurs sont tendus de mortier. Une autre, baptisée Château d'Eau, qui est formée de trois cabanes accolées, qui d'ailleurs ne sont que deux, l'une étant de forme ronde, voire tronconique, à usage agricole, l'autre est à pan carré, elle servait plutôt d'habitation, elle a servi jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Une autre capitelle, prise entre deux énormes pierriers parmentés, donc bâtis, et celle qui est derrière un mur, qui servait d'affût pour la chasse. Et puis aussi, la grande ogive. Alors, guérite, clapasse, tas de pierres, et bien encore nombreuses autres, une cinquantaine restaurées ou pas. Et vous aurez parcouru une dizaine de kilomètres sans vous en apercevoir. Les bâtisseurs à pierre sèche pouvaient être propriétaires ou professionnels, mais toujours des hommes, pour réaliser les cabanes, enclos, pierriers parmentés, murs de terrasse, rigoles empierrées et autres. Les femmes et les enfants s'étaient chargés de transporter les pierres, et ça, voilà.
Les esclaves, quoi, esclaves.
Porter les pierres dans les paniers pour faire d'énormes tas. Pour transformer les landes en terre cultivable, dans ce pays ingrat, on faisait appel aussi à ce qu'on appelle les faiseurs de champs. Par équipe de deux ou trois, équipés de baramines, pioches, brouettes, ils étaient hébergés dans les greniers, mal payés, mais ils avaient droit, à la fin du contrat, ils avaient droit à la valeur totale de la première récolte en céréales produite par le nouveau champ. Voilà, ça c'était pas inintéressant. Donc, les faiseurs de champs, c'était le nom.
C'est leur métier, en fait.
Voilà, leur métier, faiseurs de champs. Ah, oui. Et il y avait aussi, en terrain pentu, les faiseurs de terrasses, spécialisés. Alors, eux, ils construisaient des murs de soutènement pour les terrasses, ou restanques, mais eux étaient bien payés, c'était spécialistes.
Et oui, bien sûr, spécialistes, c'est toujours mieux payé.
Alors, ici, je vous ai dit, on les appelle les capitaines. C'est un peu abusif. Ce terme ne s'applique que autour de Nîmes, et en particulier dans les Garrigues. C'était un secteur bien particulier qui s'appelle les Garrigues. Elles ont été estimées à 1 000 000 environ. Autour de Faugères, c'est un autre petit patelin, on les nomme les Carabelles ou Caravinques. À Nébian, ce sont des Chambrettes. À Rougen, les Granges. Et à Montbazin, les Nichettes. Le parler local étant la cause de cela. Conservons ces belles appellations. Plus loin, on a les Oustalous sur le col de Blandas, les Cazelles en Aveyron, les Chabottes dans le Velay, les Cazelles en Lozère, les Gariottes en Quercy, les Gabornes dans le Lyonnais et combien d'autres.
Et dans l'Ariège?
Les Auris. Et en Corse, les Auris. Et du côté de. Et les Cadoles, enfin, des noms, il y en a. Bouh, il y en a. Tous ces noms sont jolis, magnifiques.
Et Cayolle, ça vient pas de...
Non, Cayawas.
Cayawas.
Alors, voilà une partie de ma bougeotte en Vonage. Un petit tour qui, je l'espère, vous aura plu. On arrive sur la fin de mon émission. À la fin, je vous en ai parlé. Si vous allez sur ma vidéo, c'est pas une aquarelle, c'est un pastel. Hein. Elle l'a baptisé I Love Black and White, puisqu'on a un ensemble de chevaux de Camargue tout blanc et les taureaux noirs au milieu. Donc, c'est la Brivado. Le troupeau qui forme la Brivade. Le mois prochain, le titre d'émission est « En faisant la manche ». Voilà, bon, vous allez, c'est pas compliqué cette fois.
Là, ça va. Déjà, on peut imaginer que c'est dans le nord.
Voilà, ben, en attendant, bougez.
Mais bougez.
En France. Merci, Francis.
Voilà.
À mois prochain.
Au mois prochain. Merci encore, Christian.